c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Surtout à chacun d'entre vous, passez une excellente journée. Alors je vous l'accorde, c'est l'hiver, mais lorsqu'on est au chaud chez soi à écouter sa radio, en principe, tout doit bien aller. Et voyez-vous, cette émission, on la démarre toujours avec optimisme. Il y a quelques nuages dehors, mais on n'oublie pas que le soleil se cache derrière les nuages. Et patience, ces rayons nous illumineront de nouveau. Et oui, la vie est belle.
De son réveil.
Lui a perdu le sommeil.
Elle a son boulot.
Lui pas trop.
Elle sort doucement du lit.
Quand lui s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur.
Elle de fleurs. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore, un gamin trop vieux.
Elle s'en va courir dehors.
Lui surpris respire encore.
Elle a plein poumon.
Lui goudron.
Elle prend sa vie à peine main.
Lui la remet à demain. Jamais de projet.
Elle en fait.
Ah, elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, d'artifice encore, de gamin trop vieux.
Elle pense que la vie est belle.
Lui la trouve trop réelle, bien trop prosaïque, trop cynique. S'il prend bien trop ses distances,
elle vit les autres comme une chance.
Lui comme un fardeau,
elle cadeau.
Ah, elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle pense que la vie est belle. Belle, belle.
Lui, pas trop.
Elle pense que la vie est belle. Elle, belle, belle.
Lui, bobo.
Elle rentrera seule chez elle. Lui, dans sa vie qui chancelle. Peu de chance pour qu'une histoire commence.
Elle continuera donc seule. Lui fera toujours la gueule. Ces deux-là ne se croiseront pas.
Faut quand même un minimum pour construire une histoire d'amour. Ça se passera pas comme au cinéma. Qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle, la radio qui chante.
Malgré tous les bleus.
jamais en condition de Zaz, en compagnie, pardon, de Zaz sur Radio Plus. Oui, votre radio chante, mais pas que. Et aujourd'hui, dans l'air du temps, dans notre rubrique Saletant sur la planète, Jean-Louis Ouattet, président de l'Étrême Nature, nous parlera des problèmes des cotons-tiges. Vous serez tout ouïe, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes toqué de ce bâtonnet Ouattet appelé à disparaître. Alors, c'est l'hiver, on a eu de la neige, c'est vrai qu'elle est au rendez-vous, ce qui fait plaisir à Bertrand Trinel et pour cause, et on le retrouvera bien sûr pour notre rubrique « Jardiner autrement ». Et puis ensuite, place aux femmes, avec Bernadette Capel, très impliquée dans le milieu associatif, Bernadette Capel qui a fondé l'association Femmes Solidaires pour la Paix et qui vient d'être nommée chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur. Et cela me fait donc plaisir d'honorer Bernadette en tant que telle, mais aussi en tant que femme.
Ô femme, comment tiens-tu encore debout? Presque à genoux. Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, ô femme.
Amour. Siècle dans mon ventre. Amour, amour, toi tu es le sel et moi la terre. Il nous reste des hommes à faire.
Toutes ces guerres à refaire chaque jour font le lit de ma nuit sans retour. Dis quel est le secret de ton âme, dis-moi, ô femme.
Amour, amour, amour est un fort amour. Amour, amour, galador. Eu vivo hoje pra depois, devo lutar, lutar por dois. Pra que semeie outras eras no meu ventre. Amor, amor, você é o sal, eu sou a terra, nosso barro os homens geram.
Comment tiens-tu encore debout? Debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux.
Michel Fugain sur Radio Plus, il était en compagnie du trio Esperanza. Alors notre enquête dans l'air du temps, vous avez plus de 65 ans, alors vous êtes concerné. Et oui, cela s'appelle les fake news, je traduis les fausses nouvelles. Or, les internautes âgés de plus de 65 ans ont tendance à partager plus de fausses informations sur Facebook que les utilisateurs plus jeunes. Ça, c'est selon une étude publiée par des chercheurs des universités de Princeton et de New York. Fake news, c'est d'ailleurs le titre du dernier livre de Michel Cotta, écrit avec Robert Namias. Un ouvrage qui montre comment les rumeurs ou les fausses nouvelles peuvent tout changer, notamment en politique. Sur Radio Plus. Alors, jamais de fausses nouvelles dans ce que nous dit Jean-Louis Ouatté, que l'on retrouve tout de suite.
Satan sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Dans une de nos précédentes émissions, la première de cette année d'ailleurs, nous évoquions l'interdiction de tous les plastiques à usage unique prévus pour début 21 au plus tard, assiettes, couverts, coton-tiges, pailles, touillettes à boissons, tiges de ballon de baudruche, plastique oxodégradable contenant alimentaire en polystyrène expansé, etc., etc. Et ce, pour lutter contre la pollution liée à l'utilisation massive de ce matériau qu'est le plastique, que l'on retrouve un petit peu partout, mais surtout dans nos rivières et océans. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors nous en avions donc longuement parlé, expliquant le pourquoi de cette décision de l'Union européenne, mais j'avais promis à nos auditeurs que nous reviendrions sur le cas du coton-tige, car aussi étrange que cela puisse paraître, il se retrouve dans le top 10 des déchets les plus fréquents sur les plages, aux côtés des mégots, des sacs, des bouteilles et des verres en plastique ou encore des couches. Alors Jean-Louis, quel peut être le parcours de ce bâtonnet aux deux extrémités en coton pour se retrouver dans nos rivières ou sur nos plages ?
Bon, d'abord, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet familial qu'on connaît bien, hein, puisque le bâtonnet ouaté est bien connu.
Je ne savais pas que vous étiez un bâtonnet ouaté.
Bon, selon sérieux, donc vrai que dès 2020, seuls les bâtonnets biodégradables seront autorisés à la vente. Alors il faut savoir que beaucoup de coton-tiges, en fait, passent à travers les filtres des centres de tri. C'est quelque chose qui est pas facile à trier et à garder. Et donc c'est vrai que ça parade chaque année dans le top 10 des déchets les plus fréquents sur les plages. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont souvent, trop souvent jetés dans la cuvette des toilettes au lieu d'être mis dans une poubelle. Ça part avec la chasse d'eau et ensuite, ça a du mal à être récupéré au niveau des stations d'épuration avec des filtres de dégrillage qui ne permettent pas justement de stocker ces cotons-tiges. Et en fait, aussi, il faut savoir que une station d'épuration est protégée par des afflux d'eau massifs, par ce qu'on appelle un déversoir d'orage. Et en cas de forte pluie, les eaux qui dépassent le débit maximal de la station sont rejetées dans la nature. Et puis, on retrouve les cotons-tiges qui flottaient dedans, hein, et puis qui s'étaient amassés dans les égouts. Donc, c'est vrai que c'est très difficile à récupérer, et donc on en retrouve beaucoup dans la nature.
Alors, bien évidemment, on mesure l'impact sur notre environnement et aussi, surtout, sur notre faune.
Oui, parce qu'une fois arrivé dans nos rivières, dans les fleuves ou sur les plages, ça représente un danger important pour l'environnement, comme tous les déchets plastiques. Bon, ils se transforment en particules qu'on va appeler des microplastiques, et qui sont vraiment des vecteurs de contaminants en tout genre. Hein. Faut savoir que le plastique se dégrade sous l'effet des rayons UV et puis libère des polluants chimiques. Et donc c'est quand même extrêmement dangereux. Et en plus, les poissons, les oiseaux sont victimes justement de cette pollution. Et la forme des bâtonnets, elle est dangereuse parce que elle peut provoquer des occlusions intestinales, perforer les organes des animaux qui les avalent. Donc c'est un danger quand même important.
Alors, on les retrouve aussi quelquefois sur nos trottoirs, Jean-Louis. Alors, on peut se demander qui se nettoie les oreilles dans la rue.
Oui, enfin, c'est vrai que j'ai jamais vu personne se nettoyer les oreilles dans la rue, mais c'est vrai qu'on en retrouve régulièrement dans les rues des villes. C'est vrai que j'ai lu que des personnes avaient fait des enquêtes et qu'effectivement, on en retrouve beaucoup, mais il faut savoir que ça n'est pas utilisé que pour les oreilles, hein. Le coton-tige, par ses caractéristiques, savoir que c'est un élément très polyvalent, et on est surpris de la quantité de choses qu'on peut faire à l'aide d'un objet si simple. Hein. Par exemple, c'est un applicateur de maquillage, hein, donc raison aussi pour laquelle on en retrouve, mais également pour tout ce qui est retouche. Hein. C'est aussi un outil qui est utilisé pour nettoyer des interstices, hein, quand on a vraiment besoin de quelque chose d'assez fin, les claviers d'ordinateur par exemple, les appareils électroniques, les filtres des machines à laver, donc on utilise des cotons-tiges. Et puis pour appliquer de la colle sur des petits objets, pour nettoyer aussi des petites plaies avec de l'alcool pharmaceutique. Donc la légèreté des bâtonnets fait que c'est aussi une raison principale que ça s'échappe des poubelles et qu'on les retrouve dans les rues.
Tout à fait. Alors, en l'occurrence, Jean-Louis, il va falloir apprendre à se laver les oreilles autrement. Mais les irréductibles du coton-tige peuvent toutefois se rassurer, car je suppose que les fabricants ont réagi et qu'ils ont trouvé d'autres solutions.
Oui, tout à fait. Il y a d'autres solutions avec des outils, des cotons tiges, mais qui seront biodégradables. Et puis il y a aussi d'autres techniques. Et puis il y a des techniques plus simples qu'on faisait autrefois. Et il faut savoir aussi quand même dire que le coton tige est dangereux pour l'oreille. Beaucoup d'ORL le rappellent. Il faut savoir que le fameux cérumen qu'on essaye d'enlever avec ce coton-tige, il remplit quand même des fonctions importantes. Savoir que c'est un lubrifiant, c'est un moyen de défense contre les corps étrangers, et en même temps, c'est un antibiotique naturel. Il est produit par des glandes dans la partie supérieure du conduit auditif, et ça agit comme une couche protectrice, on l'oublie un peu trop souvent. Donc c'est seulement l'excès de cire qui se trouve à l'extérieur du canal auditif qu'il faut nettoyer. Donc l'insertion d'un coton-tige dans l'oreille, ça peut parfois, à l'inverse de l'effet escompté, pousser la cire plus loin dans le conduit auditif et provoquer des inflammations, des dommages graves, jusqu'à une perforation du tympan qui peut elle-même causer une perte d'audition, des vertiges ou une paralysie faciale. Donc il faut être très méfiant quand même avec le coton-tige. Et donc il y a des techniques beaucoup plus douces et qui vont quand même permettre de nettoyer un peu les oreilles.
Merci, docteur.
D'une manière beaucoup moins profonde.
Merci, docteur.
Voilà.
Alors, Jean-Louis, on est dans l'air du temps. Alors, je vous pose une question. Connaissez-vous le plugging?
Non, je ne connais pas le plugging. C'est vrai que...
Alors, je vais vous expliquer. C'est une nouvelle tendance sportive et éco-responsable venue de Suède qui connaît actuellement un franc succès. Le plugging a été inventé par le sportif Erik Hallström. Le mot est une contraction du verbe ramasser en suédois et de jogging. Le plugging consiste donc à ramasser des ordures tout en faisant son jogging. Alors, il s'est rendu compte en allant au travail à vélo que les mêmes ordures jonchaient le sol pendant des semaines sans que personne ne s'en occupe. Il a donc tenté l'expérience de les ramasser en faisant son jogging quotidien et ses efforts ont vite attiré l'attention et sa proposition d'ailleurs a suscité un engouement national qui ne cesse de s'étendre. Il y en a un autre qui fait cela aussi en Grande-Bretagne et il ramasse ses déchets avec une telle assiduité que la municipalité a donné son nom à l'une de ses bennes à ordures. Une benne, Jean-Louis, ça ne vous tente pas ?
Bon. Pas tellement, non, parce que je suis pas tellement adepte du ramassage des déchets. Je suis plus pour justement la sensibilisation. Oui. Je dis pas qu'il faut pas ramasser, mais je suis toujours quand même très très méfiant parce que s'engager dans des opérations de ramassage, bon, ça s'est fait, ça se fait avec quelquefois avec des enfants. Il faut savoir que quand même, c'est dangereux. Il peut y avoir des choses, des seringues ou des choses comme ça. Il faut quand même être vigilant. Et puis je pense que c'est un peu facile de dire je jette et les autres ramassent, quoi.
Tout à fait. Ouais, c'est
vrai. Je suis pas très fan de ce type d'opération. J'ai peut-être tort, mais bon.
On est deux, donc.
Voilà.
Alors, avant de...
Moi, j'avais vu une chose aussi, je suis un peu déçu, parce que dans ce que vous m'aviez dit, que c'était des belles à ordures. Oh.
Non, ce sont des bennes.
Des bennes à
ordures. Alors, avant de nous séparer, on rappelle que ce jeudi 31, une projection du film Menace en mer du Nord aura lieu à l'espace culturel Jean de la Fontaine à l'Étrême. Alors, ce sera à 19h 19h et l'entrée est gratuite, c'est important de le dire, et c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde, adhérent ou non adhérent.
Oui, tout à fait. Donc, on va aborder un sujet quand même chaud et pour lequel il va être urgent d'agir. Hein. Ce sont toutes les armes chimiques qui ont été déposées au fond de la mer à l'issue des conflits de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Et il faut savoir qu'il y en a des millions de tonnes et que donc ces armes chimiques, les barils qui les contiennent commencent à rouiller sérieusement, et puis on a quand même déjà eu un certain nombre d'accidents, donc il est urgent d'agir, et donc c'est un film lanceur d'alerte. Le réalisateur Jacques Leuil sera présent avec la productrice Ariane Mété, et puis on aura aussi le directeur de la station marine de Vimereux, Lionel Denis, qui sera là. Donc c'est un sujet d'actualité, il ne s'agit pas d'affoler, mais quand même de montrer que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Donc c'est ce qu'on appelle un lancement d'alerte.
Merci Jean-Louis, et on se dit donc à jeudi pour ce débat très intéressant, mais surtout plein d'enseignements, avec donc la projection de ce film réalisé par Jacques Leuil, un documentaire qui doit d'ailleurs être diffusé sur Public Sénat. Jean-Louis, je vous souhaite une très très bonne semaine, merci à vous.
Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8h ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole.
Petite petite cause, grande conséquence. C'était Benabar, jardiner autrement, c'est-à-dire faire un geste et un grand pour notre environnement. On écoute Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardiner. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, deux dictons disent, neige qui tombe en tant qu'il faut, c'est or qui tombe et son prix vaut. Et puis, des neiges avec bon hiver mettent tout le bien à couvert. Alors, ce sont des problèmes agricoles du sud-ouest de la France. Alors Bertrand, je crois deviner que vous aussi, vous êtes content, vous avez été content de voir la neige. Vous nous avez tellement dit qu'elle est un bienfait pour nos sols.
Oui, tout à fait. Donc j'ai été très heureux de voir tomber la neige il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, parce que la neige, en cas de gel, bah, la neige c'était quand même un bon isolant pour nos plantes. En plus, quand les flocons de neige qui tombent lentement, bah, ils se chargent un peu d'azote atmosphérique. Et donc c'est un apport de fertilisant pour la terre. En plus, la neige va fondre, donc ici elle a fondu tout à fait lentement. Donc elle va apporter de l'eau en profondeur. Il n'y a aucune érosion du sol, ça s'infiltre dans le sol, ça amène vraiment de l'humidité dans le sol, donc tout à fait ce qu'il faut. Et puis enfin, si on veut connaître dans le jardin les endroits qui sont les plus chauds dans le jardin ou les plus froids, on observe la fonte de la neige. Là où la neige fond le plus vite, c'est là l'endroit le plus chaud du jardin. Donc c'est intéressant aussi pour mettre des plantes qui vont avoir besoin de... qui sont moins rustiques que d'autres, disons.
D'accord. Mais alors, par contre, je suppose, Bertrand, que la neige a aussi ses méfaits. Et sans doute, y a-t-il quelques précautions à prendre ?
Alors oui, tout à fait. Oui. Par exemple, sur les arbustes à feuillage persistant, la neige va peut-être brûler le feuillage ou alors va surtout brûler les boutons floraux, hein, c'est le cas du camélia. Hein, de plus, le poids de la neige sur les branches, bon, ça peut casser les branches. Donc en cas de neige, on ne laisse pas la neige s'accumuler sur ces arbustes-là. Donc on sort, on va secouer les branches pour la faire tomber. Hein. Alors par contre, il y a aussi une anecdote concernant les bambous. Ceux qui ont des bambous, quand il y a vraiment beaucoup de neige qui tombe, ils ont la surprise le matin de voir que les bambous sont disparus. Ils sont quasiment horizontales. Il faut carrément pencher à l'horizontale. Et là aussi, il ne faut pas s'en faire. Hein. On secoue les bambous et ils se redressent tout doucement en quelques jours. Mmh. C'est assez particulier à voir quand même.
Mmh. Et puis, à ne pas faire, je crois, c'est dégeler les allées avec du sel.
Oui, tout à fait. Bah, déjà, on sait que le sel sur les routes, c'est très corrosif pour les carrossines de voitures. En plus, quand beaucoup, bah oui, c'est vrai que aussi, bah alors c'est vrai que c'est corrosif pour les voitures. D'autres vont nous dire que le salage c'est sécuritaire pour les routes, que ça réduit le nombre d'accidents. Mais malgré tout, ça s'avère très nocif pour la biodiversité parce que selon WWF, il serait responsable chaque année de la mort d'un million d'arbres, hein, le fait de saler les routes. En plus, les végétaux qui poussent le long des routes pompent l'eau dans le sol, donc s'ils pompent de l'eau salée, ça fait dessécher les arbustes et les arbres, et puis les arbres meurent, et voilà. En plus, l'eau va s'infiltrer également dans la nappe phréatique, donc c'est pas bon, ça peut les contaminer. Donc, pourquoi on sale ? On sale pour éviter le gel. Hein. La température de gel va baisser, au lieu de geler à 0 degré, ça va baisser quelques degrés en moins. Mais le fait de saler sur les routes, ou chez nous, hein, sur le bitume chez nous ou ailleurs, ça laisse des flaques d'eau. Donc des flaques d'eau, ça sert d'abreuvoir aux oiseaux, parce qu'ils n'en trouvent plus ailleurs. Et là aussi, le sel de salage peut leur être fatal également. Mmh. Donc la solution, c'est peut-être de faire comme en Allemagne. En Allemagne, on ne sale plus les routes, mais on met du sable. Donc on va sabler. Et bien sûr, le coût financier est beaucoup plus important, mais c'est beaucoup plus respectueux de la nature. Donc chez nous, en tant que particulier, ben, évitons de saler, mettons du sable. Hein, ça fera aussi bien l'affaire et sans aucun dégât pour la nature.
Mais disons que les gens vont vous dire, Bertrand, le sel, ça fond, tandis que le sable, ça reste.
Oui, mais le sable, ça reste. Si c'est des cailloux, ça ne voit plus. Si c'est du bitume, un petit coup de balai après, c'est parti. Alors, il y en a qui disent qu'ils mettent aussi des cendres. Effectivement, là, les cendres, ça fait un peu pâteux, tout ça. Ouais, moi, j'évite les cendres, c'est mieux de mettre du sable, quand même.
Alors, Bertrand, je n'aurai qu'une question aujourd'hui. À part tout ce que l'on vient de dire, peut-on quand même faire des choses au jardin ? C'est vrai qu'il fait froid, c'est pas très agréable, hein, quand même. Alors, ne me dites pas que le jardin de l'ermite voit Bertrand Trinel en ce moment.
Alors, Je dirais qu'effectivement, quand il neige, surtout quand il neige, hein, on n'a pas grand-chose à faire au jardin. Et puis, il vaut mieux éviter de marcher sur la pelouse, parce qu'on va écraser la pelouse. La neige, ça sera plus du tout isolant, et ça va brûler l'herbe en dessous. Et donc, à part secouer les branches des arbustes, bien sûr nourrir les oiseaux, et puis pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, comme il fait très beau, pourquoi pas aller se balader à nouveau dans le jardin. Et puis après, il y a la serre à préparer, il y a plein de choses à faire. Il y a encore plein de choses à faire dans le jardin.
Mmh. Et puis, on peut toujours s'occuper de ses outils, hein, la bêche, la houe, la binette, le sécateur, etc. Ne pas aller trop vite hein, lorsqu'on achète des outils, n'est-ce pas Bertrand ? Car je connais des abris de jardin qui sont remplis d'outils qui ne servent jamais.
Alors, je dirais d'abord, pour répondre à la première question, oui, c'est le moment de nettoyer ses outils, les graisser, les aiguiser, hein. Et c'est en voyant, un dicton qui dit que c'est en voyant les outils qu'on reconnaît le bon jardinier. Donc, un seul critère de choix lorsqu'on achète des outils, c'est la qualité. Donc, on va trouver dans les grandes surfaces des tas d'outils de jardin à des prix modiques, hein, qui sont en fait des gadgets, hein, plus que des outils. Donc, c'est à éviter à tout prix. Hein. Les petits prix, tout ça, on évite. Avec des outils de qualité, vous allez travailler plus facilement, hein, sans fatigue. Et vous allez travailler au jardin, ce sera plus une corvée. Alors, et puis... pas la peine, par exemple, d'avoir 5 bêches. Hein. Une seule suffit. Si elle est de qualité, par exemple, en fer forgé avec un bon tranchant, une seule bêche va suffire. Alors certains vont me dire, c'est vrai, mais des outils en fer forgé, ça coûte beaucoup plus cher. Bon, alors moi je vais dire oui, c'est vrai, mais ils dureront aussi beaucoup plus longtemps, et parfois toute la vie. Mais quand même, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter des bons outils, donc ils peuvent toujours faire des brocantes. Pour quelques euros, on peut trouver des bons outils sur les brocantes, bien sûr un peu rouillés, un peu usagés, tout ça, mais un peu d'huile de coude, et puis un nouveau manche, et puis vous voilà muni d'outils de qualité. Quoi. Souvent, on trouve des outils en fer forgé sur les brocantes à des prix vraiment très, très modiques.
D'accord. Alors, et puis, autre activité, hein, on peut continuer à installer les nichoirs, et attention, en cas de gel ou de neige, ne pas oublier de mettre à boire à nos oiseaux, surtout.
Oui, tout à fait. Donc, au printemps, les oiseaux recherchent un emplacement pour nicher. Donc, mais pour ça, il faut mettre le nichoir bien avant. Donc en ce moment, c'est encore temps, mais c'est les derniers moments pour mettre les nichoirs pour que les oiseaux fassent leur nid cette année. Donc voilà. Et puis en plus, il faut continuer, bien sûr, à nourrir les oiseaux sans interruption cette période hivernale, hein, et bien sûr, leur donner à boire. Donc c'est surtout en cas de gel. Hein, on surveille bien les abreuvoirs. Et puis, il faut remplacer l'eau régulièrement parce que l'eau gèle et ils n'ont plus à boire. Quoi, donc,
bien sûr.
Ouais, effectivement.
Alors, je rappelle que vous êtes président de l'Association des paysages des jardins et des hommes et que le jardin de l'Ermite, hein, puisque je viens d'en parler, est le jardin de votre association et qu'il se situe à Averskerk. Toujours ouvert, même en ce moment, le mercredi après-midi ?
Alors, pas tous les mercredis après-midi, mais régulièrement, quasiment tous les mercredis après-midi, sauf quand il a neigé. Alors, mais cette année, je vais ajouter quelque chose. Le jardin de l'Ermite va rejoindre les nombreux jardins de l'association Jardin Passion du Nord-Pas-de-Calais.
D'accord.
Donc, il participera donc au week-end d'ouverture de l'association en visite guidée. Et d'autres jours d'ouverture sont également, le mercredi après-midi, samedi matin, sera également ouvert au public. Donc, vous allez trouver tous les renseignements sur le site de Jardin Passion du Nord-Pas-de-Calais qui sera prochainement remis à jour. Hein. Donc, je vous invite à aller sur le site parce que justement, tous les jardins de Jardin Passion du Nord-Pas-de-Calais, ça fait des années qu'il n'y a aucun pesticide dans ces jardins. Et vous verrez que les plantes s'épanouissent vraiment très bien.
Et puis, on ne chôme pas dans votre association, hein, puisque vont reprendre les cours d'art floral.
Oui, tout à fait. Donc, les cours d'art floral reprennent début février, mais bien sûr, tout l'hiver, on a eu les cours d'apiculture et de jardinage. Voilà. Donc, on doit encore préparer la serre. Dans la serre, on va préparer des couches pour mettre les piments et les tomates quand on les aura repiquées. Hein. Les piments, c'est déjà semé, donc on a déjà une centaine de variétés qui poussent. Les tomates, pas encore. Ça va venir. Ça approche.
Eh bien, justement, tenez, puisqu'on parle de votre jardin, parlons légumes. Les carottes, ça rend aimable. La soupe, ça fait grandir. C'est bien ce que nous répétaient nos parents lorsqu'on était gosses. Alors, Bertrand, après la guerre, une sélection de plus en plus restrictive a éliminé des centaines de variétés de légumes à feuilles, racines et tubercules. Mais heureusement, des grands chefs remettent au goût du jour des légumes d'hier. Et on en trouve de plus en plus sur les étals, surtout des magasins bio. C'est quand même une bonne nouvelle. Et en hiver, en effet, rien de tel qu'une bonne soupe. Hein.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'on voit dans nos jardins des topinambours, on voit des élantis, on voit des crônes, on voit des chou-raves. Et pour l'anecdote, j'avais donné à une de nos adhérentes quelques pieds comme ça de chou ras à voir piquer. Et là, je l'ai revue il y a pas longtemps. Elle connaissait pas du tout ce légume. Hein. Elle dit, oh, elle dit, j'ai fait de la soupe. Elle dit, oh, un régal. Oh, mmh. L'année prochaine, je remets des chou ras.
Tout à fait.
Alors, c'est vrai que la soupe en ce moment, ça réchauffe. C'est excellent pour la santé. Et puis, franchement, une bonne soupe de cucurbitacée, de potiron, de potiron ou autre, hein, bien onctueuse, hein, bah, c'est un délice. Hein.
Tout à fait. Même dans les grands restaurants, on nous sert ça alors.
Ah, oui, tout à fait.
Bertrand, merci. Alors, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Apparemment, vous, le froid ne vous gêne pas. Et donc, on vous retrouve lundi prochain, j'espère, en tout cas.
Oui, oui, tout à fait, à lundi.
Merci, Bertrand, et à lundi. Bonne semaine à vous.
Au revoir, bonne semaine.
Le jour se lève. La place est vide, le ciel est noir mais tout est blanc. Sur le musée des Invalides et la fontaine des Innocents, il neige. Sur les trottoirs, les caniveaux, les tickets bleus des cinémas, le Normandie, l'Eldorado, les Esquimaux, les papiers gras, il neige. De la terrasse de l'univers au grand hôtel des voyageurs, du Moulin Rouge au Sacré-Cœur, comme dans les bulles d'une boule de verre, il neige. Le temps se fige, plus rien ne bouge, rue d'Abouquet, rue du Ranelagh, sur le pavé des banlieues rouges, les vieux sommiers des terrains vagues, il neige. Sur les péniches au bord de l'eau, les tôles rouillées, les wagons noirs, sur le charbon des entrepôts, le sang gelé des abattoirs, il neige. Comme un prélude, un long silence de Notre-Dame au blanc manteau, sur les buildings de la Défense, les fausses ruines du parc Monceau, il neige. Il neige mais Paris dort encore, de l'étoile au jardin des plantes, dans la galerie des dinosaures, à côté des cristaux qui chantent. Il neige. Sur le musée Carnavalet, l'aquarium du Trocadéro, la gare du Nord, le Grand Palais, et les deux ours blancs du zoo. Il neige. Le jour se lève, la place est vide, le ciel est noir mais tout est blanc, sur le musée des Invalides et la fontaine des Innocents, il neige.
Eh bien, pas aujourd'hui puisque nous avons un très très beau soleil. En point de mire aujourd'hui, quelqu'un qui a bien commencé l'année puisqu'elle est devenue chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur en reconnaissance de ses années passées dans le monde associatif, avec bien sûr toute l'implication et l'investissement que cela demande. Bernadette Capel, bonjour.
Martine, bonjour et merci de m'avoir invitée pour cet échange.
Alors, c'est la plus haute distinction française et l'une des plus connues au monde. Depuis deux siècles, elle est remise au nom du chef de l'État pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. Et Bernadette, on vous a jugé assez dévouée pour vous attribuer cette Légion d'honneur. Alors Bernadette, surprise, honorée, contente, satisfaite, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris que vous étiez désormais récipiendaire de cette décoration honorifique française ?
Surprise, oui, puisque je ne savais pas qu'une demande avait été faite. Il y a quelques années, on m'en avait parlé et j'avais répondu par la négative, parce que je pense que la Légion d'honneur doit être réservée pour des faits exceptionnels. Mais je vous avouerai que lorsque le 1er janvier, j'ai consulté mon ordinateur et que j'ai lu un message félicitations, j'ai été vraiment surprise, mais quand même agréablement surprise.
Alors, on précise hein, que Bernadette, que la Légion d'honneur ne peut pas être demandée par soi-même et qu'elle ne se refuse pas non plus. Et si elle n'est accompagnée d'aucun avantage pécuniaire, elle est en revanche source de fierté quand même. En tout cas, je vous remercie Bernadette d'avoir bien voulu partager ce plaisir avec nous. Et puis, il faut dire que nous pouvons être, nous les femmes, un petit peu contentes de voir une autre femme accéder à ce titre de chevalier de la Légion d'honneur, car elles ont été quand même longtemps oubliées. Et la parité n'existe que depuis 2008. Hein.
Oui, en fait, la parité, c'est là qu'est le problème. Car comme dans beaucoup de domaines, les femmes ne cherchent pas trop la reconnaissance, tout au moins moins que les hommes. Et je dois dire qu'il manque des femmes dans les propositions pour la Légion d'honneur.
Mmh, c'est vrai. Alors, les femmes, justement, Bernadette Capelle, vous avez toujours voulu être à leur côté. Votre engagement dans le milieu associatif a démarré en janvier 1979, on va dire pour elles et leur famille, et depuis, avec vos différentes associations, vous continuez à leur venir en aide. Alors, quelles ont été les différentes étapes dans votre parcours qui vous a toujours conduite vers elles?
Eh bien oui, effectivement, en 1979, la personne que j'avais remplacée professionnellement, Madame Roussel, a créé le Centre d'information féminin à Béthune. Et tout de suite, j'y ai adhéré. L'objectif était de donner bénévolement aux femmes des informations juridiques. J'y ai fait du bénévolat, des aides en mathématiques, en français, surtout aux femmes de la grande résidence de Béthune qui étaient très demandeuses. Et en 2008, eh bien, dans des circonstances que je ne dominais pas, j'en ai été élue la présidente avec mon amie Jacqueline. Cette association est maintenant le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
D'accord.
Mais entre-temps, vers 1990, j'avais adhéré à une association créée aussi à Béthune par Paul Petit et qui s'appelait l'Union professionnelle féminine. L'objectif alors, et il l'est toujours, était de promouvoir et de favoriser la formation et le travail des filles et des femmes. Cette association dans laquelle je suis toujours s'appelle maintenant Femmes et Perspectives et j'en ai été présidente de 1994 à 1996 puisque c'est une présidente tournante tous les deux ans. Et c'est au cours d'une conférence que nous avions alors organisée sur la parité dans les instances élues, vous voyez, il y a beaucoup question de parité, que j'ai eu un contact avec l'association Elles aussi. Elles aussi, association nationale qui venait de se créer sur l'île. Et bien sûr, j'ai adhéré. Et j'y suis aussi toujours, puisque je suis déléguée départementale pour le Pas-de-Calais. Et enfin, il y en a eu d'autres, mais en 2005, avec des amis, nous avons créé sur Béthune, Mère pour la paix, comité du Pas-de-Calais, pour venir en aide aux femmes et aux enfants en Afghanistan. Dans le domaine de la santé essentiellement. Cette association a changé de nom en 2017 et s'appelle maintenant Femmes solidaires pour la paix.
Alors donc, vous voilà donc, si je comprends tout, depuis décembre 2017, vous voilà donc à la tête de Femmes solidaires pour la paix. Alors Bernadette, j'aimerais que vous nous présentiez cette association et je comprends qu'il y a beaucoup à dire, le peu de temps qui nous reste aujourd'hui ne suffirait pas. Aussi, je vous propose d'être à nouveau avec moi la semaine prochaine pour revenir sur cette association et sur ses objectifs. J'ai votre accord ?
D'accord, je vous expliquerai plus longuement.
Tout à fait.
Je suis intarissable sur l'Afghanistan.
Alors aujourd'hui, je vous laisse savourer le plaisir de la reconnaissance avec l'attribution de cette Légion d'honneur. On a parlé d'investissement, je suppose que cette médaille n'est pas arrivée toute seule et qu'elle vous gratifie donc pour beaucoup de temps passé pour, on l'a entendu d'après ce que vous nous dites, ce que vous venez de nous dire, et pour une forte implication, voire quand même beaucoup de courage.
Vous savez, chez nous, on dit quand on aime, on ne compte pas.
C'est vrai.
Mais il est vrai qu'on a beaucoup de plaisir, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait et à pouvoir faire plaisir autour de moi. De plus, je dois reconnaître que ma famille m'a toujours beaucoup soutenue dans tout ce que j'ai fait.
Et alors, mais quand même, Bernadette Cabel, vous avez dû certainement sacrifier d'autres choses pour réaliser ce parcours. Vous avez, non, justement, votre famille, vous en parlez.
Sacrifier des choses, bah, ce n'est pas le problème. Quand on apporte ce qu'on sait, qu'on apporte ce qu'on peut faire aux autres, et en particulier aux femmes, ça me semble être une obligation, on ne peut pas passer à côté.
D'accord. Alors Antoine Gombaud dit « Une âme généreuse prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». J'ai l'impression que cela pourrait être votre maxime, Bernadette. À vous qui on devine, à vous chez qui on devine un total désintéressement.
Oui, ça pourrait être ma maxime. Comme je vous l'ai dit, ce que je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça n'est pas une charge. Donc en fait, ça pose pas de problème.
Alors Bernadette Cabel, eh bien merci. Et comme la Légion d'honneur n'est pas une fin en soi, je suppose que vous reprendrez ensuite votre bâton de pèlerin pour votre association Femmes Solidaires pour la Paix. Et nous en parlerons donc la semaine prochaine. Merci Bernadette et je vous dis à lundi.
À lundi. Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Je vous en prie.
Il ne faut pas oublier quand même que partout dans le monde, les femmes sont encore privées de beaucoup de liberté et dans tous les domaines. Et
vrai.
Il faut se battre pour qu'elles acquièrent ces libertés, mais même pour nous ici en France, pour qu'elles les gardent, car rien n'est jamais définitivement acquis.
Tout à fait. Et justement, quand on reparle un petit peu de l'avortement, etc., etc., on s'aperçoit qu'en effet,
voilà.
Il faut lutter tous les jours. Tout à fait.
Voilà.
Merci Bernadette.
Merci Martine.
Merci.
À lundi.
Et à lundi prochain.
Tous les brumels, les dandys, les gandins, ils les considéraient avec dédain, faisant peu de cas de l'élégance, ils s'habillaient toujours, décrochez-moi ça, au combat pour s'en faire une liquette. Sous un déluge d'obus de roquettes, il conquit un oriflamme teuton. Cet acte lui valut le grand cordon, mais il perdit le privilège de s'aller vêtir à la 6-4-2. Car ça la fout mal, ça perd l'hypopète d'avoir des faux plis, des trous assez bas, de mettre un ruban sur la salopette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. L'âme du bon feu maître Jean Cotta se réincarnait chez ce vieux fêtard. Tenter de l'empêcher de boire un pot, c'était ni plus ni moins risquer sa peau. Un soir d'intempérance à son insu, il éteignit en pissotant dessus. Un simple commencement d'incendie, on lui flanqua le mérite pardi. Depuis que n'est plus vierge son revers, il s'interdit de marcher de travers, car ça la fout mal d'aller dans les vignes dites du Seigneur, faire des faux pas quand on est marqué du fatal insigne. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. Grand peloteur de fesses convaincues, passé maître en l'art de la main au cul, son dada c'était que la famule, bas de son dos tout parsemé de bleu. En vue de la palper d'un geste obscène, il a plongé pour sauver de la scène une donzelle en train de se noyer. D'un mot si sec qu'on vous l'a médaillé, ce petit hochet à la boutonnière vous le condamna de bonne manière. Car ça la fout mal avec la rosette de tâte et flatter des filles les appâts, la louche au valseur pas de salisette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas.
Et on l'a entendu, Bernadette Cabel mérite bien cette Légion d'honneur. Et puis elle nous parlera donc de son association la semaine prochaine, son association Femmes Solidaires pour la Paix. Voilà, très très bonne matinée à vous. Je ne vous dis pas au revoir puisque j'aimerais beaucoup vous avoir encore avec moi durant l'heure suivante. Cette heure est dédiée, vous le savez, à la bonne chanson française. C'est tout de suite après la page publicitaire et c'est Kaléidoscope. Auparavant, je veux quand même vous remercier d'avoir été là pour l'air du temps. Et puis n'oubliez pas ce rendez-vous à l'étrême ce jeudi 31 à partir de 19h. Allez, à tout de suite.